Musique et prière, Vincent Nemo.
Cette semaine, l'Église catholique nous donne rendez-vous avec de grandes figures de sainteté. Et pour notre émission Musique et prière, j'ai retenu pour vous Saint Ignace d'Antioche et Saint Luc. Saint Ignace d'Antioche est le deuxième successeur de Saint Pierre comme évêque d'Antioche. Antioche est située dans la Syrie historique, c'est-à-dire dans le sud de l'actuelle Turquie. Antioche est alors la troisième ville de l'Empire après Rome et Alexandrie et compte environ 500 000 habitants. Ignace, né aux environs de 35, y est donc évêque à la charnière du 1er et du 2e siècle. Après un séisme attribué à la colère des dieux, l'empereur Trajan, passant par Antioche en 115, y décide une persécution des chrétiens. Coupable tout indiqué pour expier la colère divine qui venait de se manifester. Chrétien dont l'expansion soudaine inquiète les autorités romaines. Pline le jeune, gouverneur d'Antioche, arrête les plus déterminés et Saint Ignace est l'un d'eux. Laissons à Eusèbe de Césarée, deux siècles plus tard, le soin de nous raconter ce qui se passe après l'arrestation de l'évêque. Eusèbe nous dit « De Syrie, Ignace fut envoyé à Rome pour être livré en pâture aux bêtes sauvages, à cause du témoignage qu'il avait rendu du Christ. En accomplissant son voyage à travers l'Asie, sous la surveillance sévère des gardes dans toutes les villes où il s'arrêtait, à travers des prédications et des avertissements, il renforçait les églises et surtout, il exhortait avec la plus grande vigueur à se garder des hérésies qui commençaient alors à se multiplier et recommandait de ne pas se détacher de la tradition apostolique. Dans l'une de ses dernières lettres, Ignace écrit « Que je devienne donc la pâture des bêtes, c'est par elle qu'il me sera donné d'aller jusqu'à Dieu. Je suis le froment de Dieu, que je sois donc moulu par les dents des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » À partir de ces lettres se dessine la pensée théologique de saint Ignace. On y lit notamment sa pensée très précise sur l'Eucharistie, à l'époque où l'hérésie docétiste menace le christianisme en niant la réalité charnelle du Christ. Je vous propose un hommage à saint Ignace d'Antioche, père apostolique, père de l'Église et défenseur de l'Eucharistie. Cet hommage, c'est William Byrd qui nous l'offre. William Byrd est un compositeur anglais du XVIe siècle, élève puis confrère de Thomas Tallis, autre grand compositeur anglais. William Byrd et Thomas Tallis détiendront durant plus de 20 ans le privilège exclusif d'importer, imprimer, publier, vendre de la musique et d'imprimer du papier musique, privilège octroyé par la reine Élisabeth Ière. Avec ou sans Tallis, Byrd publiera de nombreuses œuvres. Homme de la Renaissance, sa musique ne sera pas totalement marquée par le nouveau style baroque qui caractérise cette époque efflorescente dans tous les arts. C'est surtout son œuvre pour clavier qui marquera, elle, le début de la musique baroque anglaise. Homme de cour, anglican, William Byrd se convertira au catholicisme en consacrant la composition de ses dernières années à la liturgie catholique. Dès 1605, lors de la répression anticatholique en Angleterre, certaines de ses œuvres seront interdites sous peine d'emprisonnement, tandis que d'autres ne cesseront d'être jouées. Il mourra déjà un peu oublié en 1623, et sera inhumé dans une tombe anonyme. Je vous propose, en hommage donc au défenseur de l'Eucharistie, saint Ignace d'Antioche, d'écouter ce sublime Ave Verum Corpus de William Byrd. Il est interprété évidemment par l'Harmonico Consort et son chef Christopher Monks, une porte sur le ciel. Je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie, qui a vraiment souffert, immolé sur la croix pour l'homme, toi dont le côté percé laissa couler de l'eau et du sang, sois notre viatique à l'heure de la mort, ô doux Jésus, ô bon Jésus, ô Jésus, fils de Marie. Cette semaine, nous célébrons aussi Saint-Luc. Pour l'Église, c'est officiellement une fête. Saint-Luc est médecin. Après avoir entendu Saint-Paul parler du salut, Saint-Luc va le suivre durant 18 ans, jusqu'à son martyre à Rome en 67. Ensuite, Saint-Luc serait allé évangéliser la Macédoine. Il mourra à l'âge de 84 ans. Il est l'un des quatre évangélistes et l'auteur des Actes des Apôtres. Modeste et compatissant, il retient plus que les autres évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur. L'enfant prodigue, le bon samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en va pardonner, le bon larron. Dante dira de lui, il est le scribe de la miséricorde du Christ. Heureux lui-même d'avoir trouvé le salut, il est à sa manière le chantre de l'amour incarné comme saint Jean le sera de l'amour infini de Dieu Trinité. C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère de Dieu, la toute pure et toujours vierge Marie dont il nous dit « elle méditait toutes ces choses en son cœur ». Ce qui veut dire qu'avec amour, Marie relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur pour en approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en écoutant saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté de notre Père du Ciel. Avec saint Matthieu, saint Luc est aussi l'évangéliste de l'enfance du Christ. Dans son évangile, saint Luc relate les épisodes de cette enfance de Jésus, depuis l'Annonciation jusqu'à l'enseignement au docteur de la loi dans le temple, alors que Jésus n'a que 12 ans. Hector Berlioz naît en 1803. Compositeur, chef d'orchestre, critique musical, écrivain, Berlioz est un grand représentant de son époque. Son premier biographe, Adolphe Beauchot, écrira « Aventure d'amour, suicide, extase, rugissement de douleur, activité fébrile, lutte pour l'argent, misère et ruine, triomphes enivrants, chutes à plat, volcanique aspiration à l'idéal, hantise de la mort, grandes envolées lyriques jusqu'au sommet du rêve, vieillesse désespérée qui semble l'agonie et le martyre d'un fantôme, vraiment rien à manquer à Berlioz, et pas même les illuminations du génie pour être le héros le plus représentatif du romantisme français. » Voilà pour l'homme. Quant à l'œuvre, elle est immense. À noter que Berlioz réinvente la symphonie dans la suite de Beethoven. Il écrit des symphonies à programme, des symphonies concertantes ou dramatiques. Il invente aussi le monodrame lyrique à mi-chemin entre l'opéra et l'oratorio. L'une de ses caractéristiques est de proposer des œuvres nécessitant des effectifs considérables d'exécutants. Il tourne dans toute l'Europe jusqu'en Russie pour diriger ses œuvres et rencontre de grands succès. Mais il est plus reconnu comme un grand chef, un maître de l'orchestration qui inspirera des générations de compositeurs célèbres que véritablement un grand compositeur lui-même. Sa valeur artistique sera pleinement reconnue à partir de la fin du XXe siècle. L'enfance du Christ est un monodrame lyrique comme un opéra, mais non joué. La jeunesse de cette œuvre est inattendue. Le 12 novembre 1850, on joue à Paris un morceau pour chœur et orchestre intitulé « L'adieu des bergers à la Sainte Famille » d'un certain Pierre Ducré, un compositeur, maître de musique à la Sainte-Chapelle de Paris en 1679. En réalité, on joue une pièce de Berlioz qui avait signé cette œuvre du nom d'un ami nommé Duc, au nom duquel il avait rattaché la syllabe « Ré ». Devant le succès unanime que remporte cette pièce, Berlioz révèle alors qu'il en est en fait l'auteur. Il y ajoutera une première partie intitulée « Le songe d'Hérode », puis une deuxième partie « La fuite en Égypte », où se trouve inclus l'adieu des bergers, et enfin une troisième partie « L'arrivée à Saïs ». C'est donc une enfance du Christ totalement incomplète que nous propose Hector Berlioz, mais il est tout de même intéressant de l'écouter comme une illustration musicale d'une évocation de la vie de Jésus. C'est justement l'adieu des bergers que nous allons entendre. Ce sont les bergers, premiers spectateurs et adorateurs du Christ, qui saluent le départ de la Sainte Famille. Délicieuse invention romantique, voici les paroles, les premières paroles que le cœur des bergers entonne. Ils s'en vont loin de la terre où dans l'étable il vit le jour, de son père et de sa mère qu'il reste le constant amour, qu'il grandisse et qu'il prospère, et qu'il soit bon père à son tour. »